Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
7h45, ça ne vous a pas échappé, c'est la rentrée. Bah, c'est aussi la rentrée de Guy Carlier dans un instant. En attendant, Sud Radio vous explique ce matin qu'est-ce qui justifie l'assouplissement des règles et d'isolement face au Covid-19. Bruno Mégarban est avec nous, chef du service de réanimation de l'hôpital Lariboisière à Paris. Bonjour.
Bonjour Bruno.
Bonjour.
Bonjour Bruno Mégarban. Merci d'être avec nous en direct ce matin. Pour commencer, peut-être un mot de la situation en cette rentrée sur le nombre de contaminés et de cas contacts, parce que chaque jour, on a ces chiffres. En cumulé, ça nous donne quoi à peu près? Combien, quel pourcentage à peu près de la population française touchée?
Écoutez, il a été estimé qu'aujourd'hui, environ 1 million de Français sont contaminés par le variant Omicron et probablement 10% de la population a été contact à un moment dans la semaine précédente. Donc, de fait, évidemment, si toutes ces personnes devaient s'isoler, bah, je crois que malheureusement, on irait vers un arrêt total de l'ensemble des entreprises et des fonctions publiques.
Oui, c'est ça. Alors, le ministre Olivier Véran a annoncé que l'isolement des personnes positives vaccinées, je précise bien vaccinées, sera de 7 jours ou de 5, même si le test est négatif. Vous comprenez ces mesures en forme un peu d'assouplissement?
Oui, tout à fait. Il faut savoir qu'il y a une justification médicale. Ça n'est pas que, on va dire, un objectif financier ou économique. En fait, l'infection Omicron touche essentiellement aujourd'hui des personnes vaccinées qui vont avoir une réponse très rapide à l'arrivée du virus et donc des symptômes vont apparaître rapidement avec une durée d'incubation courte, puis la charge virale va monter. Et en fait, le système immunitaire va rapidement la contrôler et donc elle va rapidement descendre. De fait, la période de contagiosité qui s'étend de 1 à 2 jours avant l'apparition des symptômes et jusqu'à 1 à 2 jours après l'apparition des symptômes est beaucoup plus courte dans le temps.
Oui.
Et donc effectivement, si en 5 jours, la personne n'a plus de symptômes cliniques, très probablement, elle n'est pas contagieuse.
Oui, alors il y a la question des tests derrière. Est-ce qu'il faut faire un test antigénique? Parce que ce n'est quand même pas tout à fait la même chose entre autotest et test antigénique, là, qui se ressemblent un petit peu, mais les PCR, où on va beaucoup plus loin, quoi. Et on peut avoir, si on fait un test PCR avant de rentrer au travail, ça peut un peu s'éterniser, non?
Vous avez raison, le test PCR est très sensible. Donc, de fait, effectivement, il pourrait rester positif,
oui,
alors même que la personne n'est plus contagieuse, parce qu'il va identifier des petits fragments de matériel génétique du virus qui, en fait, ne correspondent pas à la particule virale entière qui est donc contaminante. À l'inverse, le test antigénique est probablement moins sensible, mais plus exact en termes de contagiosité. Lorsque la particule virale...
L'autotest aussi, Bruno Mégarban, pardon.
Alors, l'autotest, on va dire aussi, mais à une moindre mesure. On va dire dans l'idéal absolu,
oui,
le meilleur test pour être sûr de ne pas être contagieux est le test antigénique. Mais ouais, évidemment, on peut pas demander à l'ensemble des personnes de faire des tests antigéniques. Donc, l'autotest est aussi une bonne formulation, mais la PCR pourrait tout à fait l'être aussi. Simplement, elle pourrait rester positive au-delà des 7 jours d'isolement et inquiéter par excès peut-être les personnes.
Oui. Est-ce qu'on doit s'attendre, Bruno Mégarban, à une nouvelle flambée de cas positifs avec la rentrée scolaire là ce matin?
Oui, il existe toujours un risque. Vous savez, le virus circule uniquement parce que des personnes se rencontrent, interagissent entre elles. Et donc, évidemment, les écoles, par définition, c'est un lieu d'interaction sociale où des étudiants venant d'horizons différents, des élèves venant d'horizons différents, se rencontrent avec des enseignants. On peut imaginer que les mesures barrières ne sont pas strictement appliquées. Donc, c'est vrai qu'il peut y avoir un risque. Malgré tout, ce risque n'est pas supérieur à celui de la population générale. C'est pourquoi, évidemment, il ne faut pas fermer les écoles. L'intérêt, bien sûr, de maintenir l'éducation de nos élèves est essentiel.
Oui. Un dernier mot, Bruno Mégarban. Il y a une petite polémique, je dirais, autour des masques encore en ce moment. Encore les masques. Entre les masques classiques que nous portons et les FFP2, qui évidemment protègent plus, mais est-ce que les masques classiques que nous avons tous sont assez efficaces aussi face à Omicron?
Oui, à mon sens, ils sont suffisamment efficaces. Alors, effectivement, ce sont des masques surtout anti-projection, c'est-à-dire, en fait, ils vont protéger les autres de vos propres projections de postillons lorsque vous parlez, vous éternuez ou vous toussez, voire vous respirez. C'est vrai que leur pouvoir de filtration est plus réduit que le masque FFP2. Et donc, il y a un risque, évidemment, si vous vous trouviez dans une atmosphère très chargée en particules virales, par exemple, typiquement dans une chambre d'un patient en réanimation, ou peut-être dans une pièce où il y a des personnes contaminées mais qui est très mal aérée, alors là, bien sûr, vous pourriez être contaminé parce que, notamment sur les côtés du masque, il y a des interstices entre la peau et le tissu du masque. Ouais. C'est pourquoi, dans ces circonstances, on pourrait évidemment recommander le masque FFP2, mais à mon avis, il faut surtout le recommander aux personnes les plus fragiles, c'est-à-dire les plus âgés avec comorbidité, voire les personnes non vaccinées qui, elles, courent un risque vital d'être contaminées.
Oui. Merci beaucoup, Bruno Mégarban, chef du service de réanimation à l'hôpital Lariboisière à Paris, d'avoir été avec nous en direct sur Sud Radio.